Un deuxième Premier ministre pour Emmanuel Macron. Jean Castex succède à Édouard Philippe qui a démissionné ce matin. Le nouveau locataire de Matignon vient de la droite, tout comme son prédécesseur. Ce journal sera largement consacré à cet événement politique majeur. Nous irons à Matignon où la passation de pouvoir a débuté. Avec Stéphane Robert, nous dresserons le portrait de Jean Castex et nous évoquerons l'avenir politique d'Édouard Philippe. Possible nouveau recours pour la droite républicaine. Les urgences psychiatriques débordées en Seine-Saint-Denis. Le nombre de patients a doublé avec la crise sanitaire. Un dossier préparé par Tara Schlegel. Emmanuel Macron a donc décidé de tourner la page Édouard Philippe. Après 3 ans à Matignon, le Premier ministre a démissionné ce matin, rapidement remplacé par Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement. Mais nous allons d'abord nous rendre à l'hôtel de Matignon où nous attend Rosalie Lafarge. Bonsoir.
Bonsoir.
Rosalie, la passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex a débuté il y a quelques minutes maintenant.
Alors en fait, les deux hommes sont encore à l'intérieur. Ils sont arrivés il y a une demi-heure, ils sont en train de discuter, mais ils sont effectivement très attendus sur le perron où tout est prêt. Il y a le tapis rouge, il y a les micros, il y a beaucoup de monde dans la cour, il y a beaucoup de monde aux fenêtres également, même si le contraste ne s'annonce pas forcément saisissant. D'un côté, un homme, la cinquantaine venu de la droite, et de l'autre, un homme, la cinquantaine venu de la droite. En attendant, pour imprimer l'idée d'un nouveau chemin, ce n'est quand même pas inutile de nommer un nouveau Premier ministre, reconnaît le politologue Jérôme Sainte-Marie.
Il est tout à fait logique qu'un tournant politique soit incarné par une nouvelle personne. Cela tient d'une part au fait que les premiers ministres eux-mêmes ont des options privilégiées, ne peuvent pas s'adapter à n'importe quel changement de politique. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe d'ailleurs dans une interview récente, hein, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et d'autre part, pour mobiliser l'opinion derrière une nouvelle politique, il faut effectivement être facile que ce changement soit identifié à un changement de personne.
Alors que Jean Castex quitte sa mairie de Prades, Édouard Philippe devrait lui rejoindre celle du Havre. Mais dans les prochains jours, ce sera sans doute repos pour le désormais ancien Premier ministre. C'est en tout cas ce que laisse croire un détail dont le jupéiste a le secret. Une photo publiée sur les réseaux sociaux par son ami Thierry Soler montre Édouard Philippe sans cravate, avec des boutons de manchette bien particuliers, des tongs roses. On verra s'il les porte toujours pour son discours qui ne devrait plus tarder ici à Matignon.
Rosalie Lafarge avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques depuis Matignon, merci à vous deux. À 55 ans, Jean Castex devient donc le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron. Tout comme Édouard Philippe, il vient de la droite. Et c'est à ce titre qu'il a été réélu maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales dès le premier tour le 15 mars dernier. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et tout comme Édouard Philippe, Jean Castex a quitté le Parti Les Républicains.
Oui, Jean Castex aujourd'hui ressemble un peu au responsable politique qu'était Édouard Philippe il y a 3 ans. Inconnu du grand public, haut fonctionnaire, il a fait Sciences Po Elena, et en même temps élu local. Il est maire depuis 2008 d'une petite ville des Pyrénées-Orientales, la commune de Prades, 6000 habitants, où il a été réélu au premier tour le 15 mars dernier avec plus de 75% des suffrages. C'est un homme, vous l'avez dit, de droite qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat de 2010 à 2012 en tant que conseiller aux affaires sociales puis en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais il a grandi en politique dans le sillage de Xavier Bertrand qui lui a rendu hommage à travers un message tout à l'heure posté sur Twitter. Je connais et j'apprécie les qualités de serviteur de l'État de Jean Castex, écrit le président de la région des Hauts-de-France. Elles seront indispensables dans les moments difficiles que nous allons connaître. Valérie Pécresse ne dit pas autre chose. Castex, c'est un mélange assez inédit de très grandes connaissances de l'appareil d'État et de sensibilité du terrain. Et ce qu'il y a d'encore plus inédit, c'est qu'on entend le même son de cloche à gauche. Le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, n'a pas de mots assez fleuris pour dire tout le bien qu'il pense de lui. C'est le mec réglo par excellence, assurait Stéphane Troussel début juin au journal Le Monde. Jamais de coups tordus, quand il s'engage à fond. Et en plus, il est sympathique, des comme lui, je n'en connais pas beaucoup. Il s'entend bien, très bien également avec Jean-Claude Mailly, l'ex-patron de Force Ouvrière, avec Bernard Thibault, l'ancien de la CGT. Emmanuel Macron semble donc avoir trouvé sur le papier, en tout cas, la perle rare. Il avait d'abord nommé Jean Castex délégué interministériel aux Jeux Olympiques l'année dernière, avant d'en faire son monsieur déconfinement le 2 avril dernier. Il lui demande désormais de conduire le gouvernement pour les 2 dernières années de son mandat, dans un contexte de crise sanitaire pas complètement terminée et de crise économique qui s'annonce très dur à la rentrée, a encore dit ce matin le chef de l'État.
Stéphane, je reviens vers vous dans un instant, mais je vous propose tout d'abord d'écouter une première réaction du côté des Républicains avec Aurélien Pradier, député LR du Lot.
Emmanuel Macron continue de prendre les Français pour des imbéciles. Il considère que la vie politique française, c'est une vaste part de marché. Donc, il fait du Macron. Et on ne peut pas considérer que Jean Castex soit un grand leader de la droite républicaine. Je veux bien qu'on nous raconte cette histoire. Mais enfin, bon, il a été un serviteur de l'État. Il est encore un serviteur de l'État. Il se comporte, comme il l'a toujours fait, en collaborateur, je pense, efficace. Mais je peux avoir du respect pour Jean Castex, comme j'en avais pour Édouard Philippe. Et pour autant, considérer que il commette une erreur en allant servir une cause qui n'est pas la leur, parce qu'Emmanuel Macron ne porte pas une politique de droite.
Aurélien Pradier, député LR du Lot. Autre réaction à gauche cette fois. Le Vert Julien Bayou regrette la nomination de Jean Castex pour le porte-parole de ELV. Emmanuel Macron n'a pas tiré les leçons des municipales.
Il n'y a pas vraiment de changement de cap. Or, c'est bien là tout le problème. Pour nous, il s'agit de tirer les leçons de la crise, de tirer aussi les leçons de 3 ans de politique menée par Emmanuel Macron et Philippe qui ont abîmé le pays. Dans les discours, il y a du vert et de l'égalité et du renouveau démocratique. En fin de compte, là, on est sur le fait du prince et un président de la République dont on a l'impression que l'enjeu, c'est de préparer 2022, de pouvoir être en première ligne, mais sans changer de cap. Je pense profondément que ce mandat, en fait, il est fini et il est gâché. On rate une occasion historique de mettre le pays sur la voie de la transition écologique. Le vrai fond de l'affaire, c'est que LREM, quand il est sommé de choisir, choisit finalement l'alliance avec la droite.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Stéphane Robert, on va s'intéresser maintenant aux sortants. Édouard Philippe retourne au Havre quelques jours après sa facile réélection à la mairie. Mais cela ne signifie pas qu'il renonce à toute ambition nationale.
Non, au contraire, Édouard Philippe se retire sur son Aventin, qui se trouve pour lui à la mairie du Havre. Mais il s'en va au fait de sa popularité. 54% d'opinion favorable selon une récente enquête BVA. Il part en laissant l'image de quelqu'un de sérieux, qui a bien géré la crise, de fidèle. Il n'a jamais laissé apparaître la moindre divergence avec Emmanuel Macron. Et puis, il vient d'être réélu maire du Havre avec une large majorité de 58%. Alors, va-t-il complètement quitter la scène politique nationale pour se consacrer à la mairie du Havre uniquement ? Pas vraiment, si l'on en croit l'entourage d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les conseillers du président ont fait savoir que lui avait été confiée la tâche de consolider la majorité dans la perspective de 2022, c'est-à-dire de resserrer les liens entre La République En Marche et ses partenaires, le Modem, les radicaux, le groupe Agir, les constructifs. Est-ce réellement le cas ou bien est-ce une manière de tenter de maintenir Édouard Philippe ancré à la majorité ? Autrement dit, est-ce un fil à la patte que le chef de l'État essaie de lui attacher en jouant sur cette image de loyauté dont le désormais maire du Havre peut difficilement se départir ? Il n'y a pas de réponse pour le moment à cette question. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'Édouard Philippe, en dehors du gouvernement, devient un homme potentiellement dangereux pour l'actuel président, car il devient un recours à Emmanuel Macron, une alternative populaire à la fois au sein de l'électorat de droite, chez les marcheurs et dans l'opinion.
Stéphane Robert, merci. Jean Castex va maintenant consacrer son week-end à la constitution de son gouvernement. On ne sait pas encore quand la nouvelle équipe sera présentée, mais dès ce soir, le nouveau Premier ministre sera l'invité du journal de 20h de TF1. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à la saturation des urgences psychiatriques en Seine-Saint-Denis. À l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, le nombre de patients présentant des troubles psychiatriques a littéralement doublé depuis la crise sanitaire. Le docteur Faisal Mouafak parle d'un véritable tsunami. Ce psychiatre exerce juste en face de l'hôpital comme chef de pôle au sein de l'établissement de santé mentale de Villévrard et il fait le trajet plusieurs fois par jour entre les urgences et sa propre unité d'hospitalisation. Un dossier préparé par Tara Schlegel.
Bonjour. Alors, comment ça va ?
Habillé de blanc, grand sourire aux lèvres et masque de rigueur, le docteur Mouafak visite la vingtaine de malades qui ont la chance d'être hospitalisés dans son service, donc d'avoir pu trouver un lit. Ils se sont souvent présentés d'abord aux urgences générales à Saint-Denis et ont patienté, explique la jeune psychiatre Marion Labbé, dans des conditions très compliquées.
Parfois ils sont dans un box, parfois ils sont dans le couloir, parfois ils sont sur un brancard, sur une chaise, dans une salle d'attente, à attendre pendant des heures et des heures. Ça ne va pas forcément se traduire systématiquement par de la violence, heureusement. Mais ils vont se montrer de plus en plus impatients et parfois ils vont même demander leur sortie alors qu'ils ont besoin de soins et parfois ils vont même fuguer, partir des urgences, ça peut arriver. Et c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on a envie de les aider mais en fait on est limité par rapport à ce qu'on peut faire aux urgences.
Ces malades souffrant de troubles du comportement ont doublé ces dernières semaines. Il est impossible de trouver assez de lits en psychiatrie, déplore le docteur Mouafak.
En moyenne, les patients qui sont arrivés au mois de juin, ils ont séjourné 28 heures en moyenne aux urgences. à l'extrême, on a des patients qui sont restés 52 heures. Donc on a multiplié par 4 la moyenne.
Et ce sont parfois des malades très agités, raconte Marie, l'infirmière.
Moi, je me souviens en particulier d'un patient justement qui disait que, voilà, que lui avait des idées délirantes, où il disait qu'il pouvait vraiment sauver les gens, qu'il pouvait tuer le virus.
Il faudrait pouvoir entamer un dialogue avec eux dans un cadre sécurisant. Or, aux urgences générales, c'est presque impossible de débuter un vrai soin.
On est souvent obligé de traiter avec des médicaments pour les apaiser. Mais là, vu la durée prolongée du séjour aux urgences, ce qu'on fait, c'est de les endormir pour les aider à supporter. Donc on les endort quand il y a des troubles du comportement qui les mettent en danger et qui mettent leur environnement en danger. On a recours à la contention.
Vous les attachez ?
C'est ça, c'est le mot. Et cette approche-là clinique, hein, qui est très encadrée juridiquement, elle est toujours difficile à supporter, parce que c'est pas comme ça qu'on voit le soin. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas du soin. On endort les gens, et les heures passent, les jours passent. Alors vous avez les patients qui souffrent, vous avez les familles qui perdent confiance, et vous avez les psychiatres qui ne veulent plus travailler aux urgences.
Car ils n'arrivent plus à orienter les cas graves vers des lits appropriés. On en a tellement fermé, raconte le docteur Moifac. Dans son propre service à Ville-Évrard, on comptait 70 lits dans les années 90. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20.
Tara Schlegel, merci. Votre reportage à retrouver sur franceculture.fr. Le constructeur automobile allemand Daimler cherche à vendre l'usine Smart de Hambach, en Moselle. Ce sont les syndicats du site qui l'annoncent. Environ 1500 emplois sont en jeu. La CGT accuse Daimler d'abandonner ses salariés français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle le constructeur à garder toutes les options ouvertes, y compris celle de conserver l'usine de Hambach. Toujours au chapitre social, le groupe Air France devait confirmer aujourd'hui la suppression d'environ 7600 emplois. 6560 postes vont disparaître au sein de la compagnie nationale, soit 16% des effectifs. S'agissant de la compagnie régionale Hop, 1022 emplois seront supprimés sur 2400. Le patron d'Air France, Pierre-Olivier Bandet, justifie ce plan par le caractère exceptionnel de la crise. Les syndicats rejettent les suppressions de postes en rappelant les 7 milliards d'euros d'aide de l'État versés à la compagnie. À l'étranger, le procès des meurtriers présumés de Jamal Khashoggi s'est ouvert aujourd'hui en Turquie. Le journaliste et opposant saoudien avait été assassiné en octobre 2018 dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le crime avait provoqué une onde de choc mondiale. Le procès devant une cour d'assises turque se tient en l'absence des 20 accusés saoudiens. Anne Andloer nous appelle d'Istanbul.
C'est avec le récit de Hatice Cengiz, fiancée de Jamal Khashoggi et unique plaignante, que s'est ouvert le procès des meurtriers présumés du journaliste saoudien. La jeune femme est la dernière personne à avoir vu Jamal Khashoggi vivant avant son entrée dans le consulat d'Arabie Saoudite le 2 octobre 2018. À la sortie de l'audience, elle paraissait à la fois émue et confiante.
Ce qui s'est passé reste pour moi une épreuve à la fois morale et psychologique. Mais j'ai confiance en la justice turque et notre lutte pour la justice se poursuit. Suivra non seulement en Turquie, mais aussi partout dans le monde.
Cette première audience aura permis au tribunal d'entendre une partie des 54 témoins de cette affaire. Le banc des accusés, lui, est resté vide. L'Arabie Saoudite, où un procès à huis clos s'est conclu en décembre, a refusé d'extrader ses 20 ressortissants accusés par la Turquie d'avoir planifié ou commis le meurtre. Agnès Kalama, rapporteure des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, assistait à l'audience.
Le procès saoudien n'était qu'une parodie de justice. Ici, nous avons un espace où les victimes sont entendues, où les témoins parlent sous serment. C'est important pour la vérité, car d'autres informations vont émerger. Oui, le procès en Turquie a de nombreuses limites, mais c'est ce que nous pouvons avoir de mieux pour l'instant.
The best we can get. La prochaine audience du procès est fixée au 24 novembre.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. La Turquie, où deux anciens responsables d'Amnesty International ont été condamnés aujourd'hui pour activité terroriste. 6 ans et 3 mois de prison ferme pour Taner Kilis, l'ex-président d'Amnesty en Turquie. 2 ans et 1 mois pour l'ancienne directrice İdil Eser. Les deux condamnés font appel, ce qui leur évite pour le moment l'emprisonnement. Amnesty International dénonce une parodie de justice dans une affaire montée de toutes pièces par l'accusation. Le temps demain commence à s'améliorer, toujours des nuages sur la moitié nord, mais le risque de pluie se limitera aux régions bordant la Manche. Partout ailleurs, le soleil s'imposera après dissipation des grisailles matinales. Les températures le matin iront de 10 à 21 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, le thermomètre grimpe entre 19 et 33 degrés de la Manche au sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.